Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Lusitania 1915, la dernière traversée, de Erik Larsson, lu par Philippe Smolikowski. À Chris, Kristen, Lorraine et Erin, et à Molly et Ralphie, qui ne sont plus là, mais que je n'oublie pas. Débusquer le suspense. Avertissement au lecteur. J'ai commencé à lire des ouvrages sur le Lusitania, d'abord sur un coup de tête. J'ai été en cela fidèle à mon habitude, consistant entre deux périodes d'écriture à dévorer tout ce qui me tombe sous la main. Ce que j'y ai alors appris m'a tout à la fois fasciné et horrifié. Je pensais savoir déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur cet événement, mais, comme c'est souvent le cas lorsque je me livre à des recherches approfondies sur un sujet précis, j'ai vite compris qu'il n'en était rien. Et surtout, j'ai découvert qu'enfouis sous les détails nébuleux de cette affaire, détails qui ont parfois été rendus délibérément nébuleux, se dissimulait quelque chose d'aussi simple que stimulant. Une excellente histoire. Je m'empresse comme toujours d'ajouter que ce livre n'est aucunement une œuvre de fiction. Tout ce qui est rapporté entre guillemets est extrait de mémoires, de lettres, de télégrammes ou autres documents historiques. Je me suis attaché à rassembler les nombreuses ramifications parfaitement authentiques que l'histoire du Lusitania recelait en matière de suspense et, osons le mot, de romanesque, afin de la faire vivre au lecteur comme la vécurent ceux qui en furent les protagonistes. Les lecteurs plus impressionnables préféreront toutefois très certainement sauter les détails d'une autopsie figurant à la fin de mon récit. Quoi qu'il en soit, je vous propose aujourd'hui la saga du Lusitania et celle de la myriade d'événements, décisifs ou désespérément insignifiants, qui ont convergé pour provoquer, un beau jour de mai 1915, une immense tragédie, dont la véritable nature et la véritable portée ont longtemps été enfouies dans les brumes de l'histoire. Erik Larsson, Seattle. Quelques mots au sujet de l'heure. Afin d'éviter de m'embrouiller moi-même et de perdre les lecteurs, j'ai converti l'heure qu'il était à bord du sous-marin allemand en celle du méridien de Greenwich. Ainsi, 15 heures sur le journal de bord du capitaine Walter Schwieger est devenu 14 heures dans les pages qui suivent. À propos de l'amirauté britannique, il est important d'avoir toujours à l'esprit que le plus haut responsable de l'amirauté était le First Lord, qui tenait en quelque sorte lieu de directeur général. Il avait pour second le First Sea Lord, qui jouait plutôt le rôle de directeur de l'exploitation, responsable au jour le jour des opérations maritimes. Les capitaines doivent avoir en mémoire que, même s'ils sont censés tout faire pour assurer un voyage rapide, ils ne doivent prendre aucun risque qui puisse, en quoi que ce soit, exposer leur navire à un accident. Ils devront toujours avoir à l'esprit que la sécurité des vies et des biens qui leur ont été confiés demeure le principe absolu qui doit présider à la conduite de leur navire. Et ne jamais envisager de tirer un quelconque profit d'un voyage ou de gagner du temps lors d'une traversée, si cela est susceptible d'entraîner un accident. Règles à observer au service de la compagnie. The Cunard Steamship Company Limited, mars 1913. Ce qui importe avant tout, c'est la sécurité du U-boat. Amiral Reinhard Scheer, mémoire de l'amiral Scheer, 1919. Quelques mots du capitaine. Le soir du 6 mai 1915, alors que son navire approchait de la côte irlandaise, le capitaine William Thomas Turner quitta la passerelle de navigation pour se rendre au salon des premières classes